Et bonjour à tous. Vous m'entendez assez, c'est bon? C'est parfait. C'est la première fois que j'utilise ce petit truc-là. Je voudrais vous remercier, Brigitte, Marie-Laure et l'équipe. Vous êtes une illustration magnifique du message que je vais faire. Donc merci beaucoup. C'est toujours un peu la pression de venir apporter un message. Mais je vais prier. Père, je te remercie vraiment pour ta parole. Je te prie de venir disposer les cœurs à recevoir ce que tu as à dire. Je te prie ce matin que ce ne soit pas mon message, mais le tien. Alors je te confie mes paroles, je te confie nos pensées, et je te confie les cœurs de mes frères et sœurs. Amen. Alors je crois qu'il est bon de faire une petite piqûre de rappel, parce que le dernier message que l'on a eu sur Josué, puisqu'on est en train d'étudier depuis plusieurs mois maintenant le livre de Josué, c'était Farid, et ça remonte au 17 décembre. Dans sa prédication, d'accord, il était question des villes refuges. Il y avait quatre points essentiels. Le premier point, c'était une invitation à fuir le péché et à se réfugier en Christ. Le deuxième point, il nous rappelait que Jésus avait tout porté à la croix et que nous sommes lavés de tout péché. Il faisait référence à Romains 8, « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit-Saint, qui donne la vie par Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » À la veille de Noël, c'était, me semble-t-il, un message particulièrement important. Le troisième point qui m'a particulièrement touché, moi, il nous invitait à fuir le péché, oui, mais pas les pécheurs. Et souvent, nous pouvons faire une petite confusion sur ce point-là. Et le quatrième point, c'était l'invitation au repos. Malgré nos vies tumultueuses, Dieu nous octroie du repos. Et il est bon, frères et sœurs, de prendre du repos. Alors aujourd'hui, dans Josué 22, l'autel témoin, je vous propose deux temps. Un premier temps où on va décortiquer, on va faire une petite lecture chronologique pour bien saisir le texte. Et dans un deuxième temps, vous le savez, Farid nous invite à faire ça dans notre formation, c'est trouver où est Jésus dans ce texte. Quel enseignement on peut tirer de ce texte-là? Alors je vous propose pour cela un découpage en quatre parties. Une première partie, l'envoi en Galade, des versets 1 à 9. Une deuxième partie sur la construction de l'autel et la crainte des Israélites. Troisième partie, la réponse des deux tribus et demi aux Israélites. La quatrième partie, la compréhension et la validation de l'autel. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, la première partie, l'envoi en Galade, versets 20 à 9. Là, ici, Josué met en avant, il commence par là, la fidélité, l'obéissance et le cœur de service des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé. On peut voir au travers de ce passage-là que ce peuple-là est désormais un peuple de confiance. Ça n'avait pas toujours été le cas. Et je crois que si Josué le précise, c'est parce qu'il est bon de montrer que c'est un peuple maintenant de confiance. Josué va les renvoyer dans leur pays d'origine, en leur donnant quelques consignes. Leur pays d'origine, c'était un territoire que Moïse leur avait donné, pour rappel. Donc ils ont servi correctement, avec amour, avec obéissance, et Josué les libère, les renvoie. Mais pas sans rien. Il va leur dire: veillez seulement à respecter et mettre en pratique les commandements et la loi que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de tout votre âme. Bien d'accord que ce peuple-là est un peuple qui aime Dieu et c'est un peuple de Dieu. C'est clair, c'est clairement dit. Et pourtant, nous verrons plus tard que peut-être ils se posent encore la question. Et dans cet envoi, ils retournent à leur pays, et matériellement, Josué va les bénir, et ils vont repartir avec plusieurs richesses. La deuxième partie, versets 10 à 20, je vais l'intituler « La construction de l'autel et la naissance de la crainte chez les Israélites ». Alors, on a ces deux demi-tribus qui sont sur leur territoire, et au bord du Jourdain, face à Canaan, ils vont construire un autel immense. Est-ce que c'est pas un peu de la provoque, ça ? S'ils construisent cet autel est fait pour être vu. Quand on fait quelque chose pour qu'il soit vu, c'est que forcément, on attend une réaction. Forcément, la réaction arrive. Les Israélites, voyant l'autel, à l'abordage, à l'attaque. Pour eux, ils vont commettre un acte d'infidélité. Ils construisent un autel pour faire des sacrifices pour un autre Dieu, pour d'autres dieux. Pourquoi cette réaction ? Ils vont réagir par peur de l'Éternel. Est-ce que c'est bon ? Oui. Oui, ils ont la crainte de l'Éternel. Ils sont aussi héritiers d'un passé, d'événements. On y fait référence. Le crime de Péor, l'acte d'infidélité de Akan. Donc, ils ont le souci de la crainte. Tu as raison, Marie, pas de la peur. Ils ont la crainte de l'Éternel. Mais ce qui est beau, c'est que déjà là, il y a un premier acte d'amour. Ils auraient très bien pu dire, allez, c'est bon, on y va, on les écrase, on les attaque. Non. Ils vont aller les voir, les interpeller, et ils ne vont pas les rejeter, ils ne vont pas les attaquer tout de suite. Ils vont même les inviter à venir, à les rejoindre dans leur pays, un pays dit pur. Et on va voir que ça a son importance par la suite. La troisième partie, d'accord, on a les Israélites qui arrivent, qui vont voir les deux demi-tribus en leur disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Ils vont écouter. Ils auraient pu tout de suite réagir. Ils vont écouter. Et leur premier élément de réponse, ils vont leur proclamer qui est Dieu. Donc ils remettent Dieu, l'Éternel, au centre. Et là, la discussion se met en place. Il leur explique que s'ils ont construit cet autel, c'est parce qu'ils sont inquiets, ils sont animés d'une peur, celle que leurs descendants soient rejetés et éloignés de Dieu. Pourtant, on l'a vu, Josué les avait envoyés, ils sont sur un pays qui leur a été donné par Moïse. Ils sont le peuple de Dieu. Malgré tout, ils ont cette crainte-là. Ils ont donc besoin de marquer durablement l'alliance qui lie les deux peuples à l'Éternel. Ce besoin de dire et de permettre à leurs descendants de continuer de louer Dieu et de servir Dieu. Quatrième partie, la compréhension et la validation de l'autel. Une fois qu'ils ont entendu le retour, les Israélites disent « Ok, on comprend mieux. Ce n'est pas un acte d'infidélité. » Ils comprennent. Ils vont donc retourner chez eux, bénir l'Éternel et renoncer à l'attaque qu'ils avaient prévue. Et ils vont même aller jusqu'à donner un nom à cet autel. Autel Ed, qui veut dire l'autel témoin. D'accord ? Entre nous, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc cet autel, finalement, va être un symbole d'une unité, un symbole qu'ils ont le même Dieu et que l'Éternel est parmi eux. Dans tout ça, où se cache Jésus ? On pourrait intituler cette partie « Les dérives des a priori et des préjugés ». Si on regarde, on a deux peuples. Les Israélites, eux, ont le souci d'être conformes à la loi de Dieu, au commandement. Les deux demi-tribus, eux, ils ont le souhait que leurs descendants puissent continuer à servir, car ils aiment Dieu de tout leur cœur. Ils sont tous les deux pourvus de bonnes intentions. Vrai ou faux ? Qu'est-ce qui vient animer, finalement, cette colère, cette potentielle attaque ? Les préjugés. Ce que l'autre pense que, sans avoir une explication. Un conflit est sur le point d'éclater. L'un pense que le peuple d'en face est prêt à s'éloigner de Dieu. L'autre pense qu'il pourrait être renié et privé du service de servir l'Éternel. Question. Ça vous fait penser à rien ? Il n'y a pas des fois un peu où il y a malaise, on ne va pas voir la personne, on se monte un peu le bourrichon. S'il a dit ça, c'est parce que. Si elle a fait ça, c'est parce que. Et je dis rien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans notre cœur ? On se libère ? Non. La colère gangrène. Toutes les mauvaises choses gangrènent en nous. Et du coup, de fil en aiguille, à la moindre étincelle, pouf ! Ça éclate. Et parfois, l'autre ne comprend même pas d'où ça vient. Heureusement, les Israélites vont chercher à communiquer avant d'attaquer. Et cela est bon. Alors, ça fait quelques années maintenant que je gère des équipes, de plus en plus grandes avec le temps. Et je me suis aperçu que la plupart des conflits, je pourrais dire au moins 70%, sont dus à un problème de compréhension, souvent lié à de la communication ou une absence de communication. Il y a souvent un écart, une grande marge entre ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit, ce que je pense avoir fait ou dit, ce que l'autre a compris et ce que je crois que l'autre a compris. Et cet écart-là peut créer des malaises, peut créer des malentendus. Et si on ne prend pas le temps d'aller et de parler, pouf, ça explose. Dans ce passage-là, les Israélites ont la sagesse d'aller communiquer avec les deux demi-tribus. Cette recherche de solution, cette démarche, elle est biblique. On va le voir en Matthieu 18, versets 15 à 17. « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre de notre peuple et le collecteur d'impôts. » On ne passe pas tout de suite à l'attaque. On le voit bien là. Dans Galates 6, versets 1 et 2, « Frères, si quelqu'un vient à être pris en faute, vous qui avez l'Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin, mais faites preuve de douceur à son égard. » Et prenez bien garde, chacun, de ne pas vous laisser tenter, vous aussi. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Est-ce qu'il est dit « à l'attaque, à l'abordage ». Il a péché, poum ! Pourtant, ça serait souvent plus facile. Alors, je pose la question ce matin. Est-ce que vous avez la force, le courage, d'aller reprendre votre sœur, votre frère, quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et est-ce que tu acceptes de te laisser reprendre par un frère et une sœur, plus ancien ou plus jeune que toi ? Dans l'âge ou dans la foi ? Est-ce qu'on n'aurait pas les réflexes de dire « Attends, ça va, j'ai 20 ans de conversion, il vient de se convertir, qu'est-ce qu'il va m'apprendre ?» Et est-ce qu'on se laisse reprendre, peut-être aussi parfois, par des personnes qui ne se disent pas chrétiens ? Est-ce que les non-chrétiens n'ont peut-être pas aussi des choses à nous apprendre ? Je sais que c'est pas facile. Mais je crois que c'est possible. Et nous avons une clé. L'amour. Quand j'avais 20 ans, je me suis retrouvé dans ma Renault 19 blanche à l'époque. Au plus bas. Au plus bas de plus bas. Grosse crise identitaire. Je ne savais pas où j'allais. Je me disais que finalement, prendre un platane serait peut-être plus simple. Et un jour, je décide d'ouvrir mon cœur. Mon cœur à mon ami d'enfance. Et je lui explique. Et je lui dis, si finalement, je n'étais pas ce gars, le costume que je mets, mais que j'en étais un autre. Et je lui livre tout ce que j'ai sur moi, tout ce que je porte. Et là, je me souviens de mon ami qui me regarde, les yeux dans les yeux, et qui me dit, peu m'importe, je t'aimerais quand même, je t'aimerais comme tu es. Ça a été une des premières libérations de ma vie. L'amour inconditionnel. Et ça, c'est venu ancrer quelque chose. Il y a 7 ans maintenant, j'ai perdu mon papa de manière très tragique, et ça a été un tsunami dans ma vie. Je pense que ça a été la période où j'ai été le plus odieux avec ma femme et mes enfants. Je ne voulais voir personne. Je partais à la dérive complète. J'étais déconnecté complet. Peu de personnes, je pense, arrivaient à me parler, en tout cas à ce que je puisse les entendre et les écouter. Et on est parti rendre visite à ce même ami, et on est partis tous les deux. Et là, je lui déverse toute ma colère à l'égard du monde. Je me sentais incompris par ma femme, par mes parents. Et il me dit... Sylvain, reprends-toi. Est-ce que tu réalises ce que ta femme vit ? Écoute ta femme. S'il n'y avait pas eu le premier ancrage, je lui aurais dit quoi ? Tu comprends rien. Tu comprends rien. Tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Mais parce que je savais que ce qu'il disait, il les faisait dans l'amour, et il s'en foutait de qui j'étais. Il voulait juste que je sois touché par l'amour du Père. Et David B. est quelqu'un, vous le savez, qui m'est cher. Parce que quand il a fallu prier pour certaines délivrances, quand il a fallu que je lui dévoile mon cœur, ce qui pour moi me semblait odieux, impensable, impardonnable, c'est pas qu'il s'en foutait, c'est qu'il m'aimait avec le cœur du Père, il allait au-delà. Ce sont deux témoins qui m'ont permis, deux hommes qui m'ont permis de me reconnecter avec l'identité d'homme, avec l'identité de père et avec l'amour du père. Farid nous a invités, dans son dernier message, à être des Lévites. Il nous a rappelé que nous sommes la lumière du monde. Est-ce qu'il nous a invités à rester dans nos quatre murs ? Et non. Nous avons des préjugés. Alors on a des préjugés au sein de notre famille, au sein de notre église, qui sont déjà pas forcément faciles à gérer. Qu'en est-il de ceux des personnes de l'extérieur ? De ces personnes que l'on pense non fréquentables, parce qu'elles ne sont pas chrétiennes, parce qu'elles sont des pécheurs, parce qu'elles pourraient nous tirer vers le bas ? parce qu'elle pourrait me souiller. On n'a pas ces réactions des fois ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens des fois que j'évite ? Parce que j'ai peur de la réaction, j'ai peur de ce que ça pourrait générer en moi. Je ne sais pas vous, mais moi oui. En tout cas, ça l'a été pendant longtemps. Est-ce que nos préjugés ils ne nous empêchent pas d'aller vers l'autre ? Est-ce qu'ils n'instaurent pas une peur chez nous ? Est-ce qu'ils ne nous cloisonnent pas dans notre église, dans notre entre-soi ? C'est plus simple finalement que d'aller vers l'étranger. Est-ce qu'ils ne font pas fuir les personnes qui sont différentes ? Et par conséquent, est-ce qu'ils ne nous empêchent pas de servir Dieu ? Je crois qu'on a tous la réponse. En Jean 13, verset 34, il nous est dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous seront que vous êtes mes disciples. » Peut-être y avait-il cette formulation, mais elle n'était pas dans la Bible. Aimez ce que vous pensez digne d'être aimé. Aimez ce qui semble être bien à vos yeux. Aimez ce qui vous ressemble. Vous avez ça dans votre version de la Bible ? Non. Non. Alors ces a priori, ces préjugés, d'où peuvent-ils venir ? La peur de l'inconnu. C'est typiquement humain, ça. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. La peur de la différence, parce qu'on a peur d'être moins bien, ou parce qu'on pense que l'autre n'est pas assez bien. La peur de notre propre vulnérabilité. Le drogué qui est là-bas, je ne vais pas le voir, on ne sait jamais, s'il venait me proposer quelque chose, et moi je m'en suis dépêtré déjà de tout ça, si je retombais dedans. Si on me voyait avec cette fille là-bas, est-ce qu'on ne penserait pas que je trompe ma femme ? Il y a aussi notre éducation, le poids de notre éducation, de tout ce que l'école, nos parents, nos grands-parents, avec tout l'amour et la bienveillance, la bonne volonté, on reste parfois enfermé dans des schémas, on reste enfermé dans des boîtes, et je suis bien placé pour savoir que l'école est très favorable à faire rentrer les gens dans des boîtes. Et puis, il peut y avoir aussi des mauvais enseignements, des fois, que l'on a pu recevoir. Et tout ça, ça nous sclérose. Et ça nous empêche de rentrer dans le plan de Dieu, dans ce plan de l'amour inconditionnel, dans l'amour du Père. Mais j'ai deux bonnes nouvelles, les amis. Première bonne nouvelle, c'est qu'on peut briser ses a priori. Comment ? Par la révélation du Saint-Esprit, par l'amour inconditionnel du Père, qu'il peut venir déposer dans ton cœur. Prenons un temps pour ça. On va prier pour ça à la fin. Deuxième bonne nouvelle, soyez forts et rassurés, nous sommes équipés, vous et moi. Éphésiens 6, versets 10 à 20. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. On sait faire ça, non ? Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endosser l'armure de Dieu donne enfin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme! Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Merci Farid pour ton introduction. Et intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret qui révèle l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis l'ambassadeur. C'est de cet Évangile que nous sommes les ambassadeurs. Des ambassadeurs enchaînés. Priez donc que je l'annonce avec assurance. Priez donc que nous l'annoncions avec assurance comme nous devons en parler. Sans le savoir, tu m'as fait une super introduction dans ton dernier message, Farid, et je t'en remercie. Nous rappeler aussi que 1 Jean 4,4, on demandait à Jean d'ailleurs s'il y avait un 4,4. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Nous avons donc, chers amis, l'autorité, les armes et la protection de Dieu. Et celle de Jésus, par son sang versé à la croix. Que veut-on de plus ? On attend quoi ? Finalement, on attend quoi ? Quand j'ai fait l'académie, Rémi Gomez, que certains connaissent, nous a pas mal parlé de ses visites auprès, enfin, dans les cités, d'accord, auprès du peuple musulman, entre autres, mais c'est surtout le contexte qui n'était pas vraiment sécur où il allait. Et là, j'ai eu une révélation. Qu'est-ce que j'étais présomptueux ? Pour moi, il fallait que j'y aille, et une fois que j'y étais, je priais, l'Esprit venait, et là, on était protégé. Mais je suis qui, moi ? Si je vais là-bas, c'est pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit qui a appelé. Est-ce que l'Esprit n'y est pas déjà là-bas ? Si. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut prier et qu'il faut être attentif à l'Esprit. Jésus n'est-il pas allé vers la Samaritaine, vers les lépreux, vers la femme adultère ? Est-ce qu'il est resté avec les gens bien de ce monde ? Est-ce qu'il est resté avec ceux qui sont conformes aux attendus de la société ? Est-ce qu'il est resté dans la synagogue en attendant que les gens viennent ? Non. Non. Alors je sais, certains vont me dire, oui mais regarde celui-là, là-bas ce qu'il fait c'est absolument pas biblique. Eh bien j'ai encore une bonne nouvelle, ça ne t'appartient absolument pas. Psaume 75 et verset 8, c'est Dieu seul qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. C'est pas moi qui abaisse, c'est pas moi qui élève. Ça ne me regarde pas ce qu'il fait. Qu'est-ce que l'Esprit te dit de faire ? 1 Corinthiens 13, verset 13. En somme, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et... Et quoi ? L'amour. Ben c'est, il n'est pas très vif le vôtre. Et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est
l'amour.
Ah, merci. Ça réchauffe le cœur. Je crois vraiment que nous ne pouvons pas honorer mieux notre Dieu, nous ne pouvons pas mieux honorer Jésus qu'en aimant. Que ce soit nos frères et sœurs dans l'Église, mais aussi les plus petits, les attristés, les blessés, les rejetés, ceux qui ne connaissent pas encore l'amour inconditionnel de Dieu, ceux qui ne connaissent pas la grâce de notre Père céleste. En Matthieu 25, verset 40, il est dit, « Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Est-ce que c'est bon que j'aime Farid, que je prenne soin de lui ? Oui ?
Oui.
Et je m'arrête là ? Ou est-ce que c'est bon que j'aille au Prada ? Que j'aille Open Joy, oui, c'est que c'est Open Joy, je voulais chercher, c'est pas le pas de la casa ? Comme, à la Jonquera. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est leur place ? Est-ce qu'ils sont souillés ? Est-ce qu'ils sont souillés?
Non.
Non. Est-ce qu'ils aiment comme Jésus? Oui. Jean 3, verset 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Avant toute chose, le sacrifice de Jésus n'est-il pas un témoignage d'amour? Alors, la manière de l'honorer le mieux, n'est-ce pas d'aimer de manière inconditionnelle? Au-delà des filtres que nous avons, au-delà des cadres que nous nous infligeons? Si nous souhaitons être des disciples, si notre volonté la plus profonde, c'est que les gens découvrent l'amour du Dieu Père, pas que les gens là, on parle bien du monde, ce n'est pas en restant entre nous. Ça, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour vous. Non, ce n'est pas en restant dans notre petit confort et en attendant là que peut-être des gens viennent nous visiter. Et là, on pourra leur parler de l'amour. Alors j'ai envie de vous dire, lève-toi et marche. Lève-toi et aime comme Jésus l'a fait. Aime, sois attentif à ce que l'Esprit te révèle. Dieu est évident. Dieu est évidence. C'est nous qui ne le sommes pas. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Ça peut être OK, mais soyez juste honnête avec vous-même. Des fois, il suffit de ne même pas parler. Nos mots galvauderaient l'amour puissant de Dieu. Aucun mot ne peut expliquer l'amour puissant de Dieu. Il faut le vivre. Notre jargon va rassurer que nous, juste ça, la personne qui n'a jamais mis les pieds dans une église, ça va la perdre. Des fois, il faut juste faire ça et accueillir. Il me semble important de vous partager un témoignage qui a bouleversé ma vie il y a 2 mois maintenant, presque 2 mois et demi. Ça va faire 20 ans que j'ai donné mon cœur à Dieu et j'ai vécu de très belles choses. Il y a quelque temps, Dieu est venu me rencontrer. Nous étions 4, 5. On a eu un temps de prière fort avec une enfant de 11 ans qui est venue poser les mains sur moi et qui a parlé en langue. J'ai vécu des délivrances profondes. Nous avions un 6e qui n'était pas avec nous, qui priait à distance. Dieu a révélé des choses dont il n'était pas au courant. Il appelle et il dit, Sylvain, j'ai quelque chose qui me vient. Ça va être douloureux, mais c'est pas grave, je te le donne. Ce qui vient, c'est petit gros. Petit gros. Vous ne pouvez pas savoir ces 3 mots. T'es un petit gros. Ça en fait 4 même. Ce que ça a écrasé ma vie. Jeune, j'étais petit et rondouillé. Je l'ai toujours très mal vécu. Mon père et mon frère m'appelaient Slimfast. Pour les plus anciens, vous savez, c'était les régimes. Voilà. Et j'ai grandi avec ça. Mais c'était refoulé depuis longtemps. Il est venu appuyer là. Il ne savait pas. Petit gros. Et là, il me dit, Sylvain, Dieu veut te dire quelque chose. Il n'y a jamais eu rien de gros en toi, si ce n'est ton cœur. Et là, je suis tombé. J'ai perdu toute notion du temps. Je me suis retrouvé dans les bras du Père. Je n'avais jamais vécu ça. Jamais. Depuis l'âge de 22 ans, j'ai des douleurs articulaires, plus ou moins fortes par moment. J'ai vécu un moment sans aucune douleur. Je suis de cette nature, mais je ne suis pas le seul, hein, à toujours penser. On a pas l'œil encore ouvert, qu'on commence déjà à penser. Il y a des fois, je disais, Seigneur, j'aimerais que tu débranches. Pendant tout ce temps-là, je n'ai pensé à rien. J'ai juste ressenti l'amour de Dieu. Juste ça. Et moi, c'est ça que je veux que les gens découvrent. Je veux que ce soit ça que les gens du monde connaissent. À partir de ce moment-là, on a tous des combats, des difficultés. Moi, y compris avec la bouffe. D'accord ? J'avais besoin de manger par moment au point d'être là, vous savez, comme si ça venait apaiser quelque chose. J'avais des périodes où il fallait que je sois rempli de sucre, vous savez. En 2 mois et demi, j'ai perdu quasi 10 kilos, sans aucune privation. J'avais juste pas l'envie. J'ai découvert ce que c'est que le jeûne, la véritable dimension du jeûne, où j'ai pu ne rien manger pendant 2 jours et demi et faire 2 sessions de 12 kilomètres dans le Vercors, en pleine forme. J'ai pu découvrir la dimension spirituelle que le jeûne apportait. Ça me paraissait tellement loin. J'avais déjà jeûné, mais... Pourquoi ? Parce que Dieu est venu enlever des poids de mon passé et a insufflé son amour inconditionnel. Et en fait, vous savez quoi ? J'ai juste envie de le donner, j'ai juste envie de le partager. Et aujourd'hui, ça bouleverse ma vie. C'est parce que ce qui faisait sens pour moi ne fait plus sens. Ce qui fait sens, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Moi, ce matin, j'ai envie de prier pour ça. Et j'ai envie que vous le preniez aussi comme un envoi. Mon cœur, vraiment, c'est que vous puissiez être rempli de cet amour inconditionnel du Père et que vous puissiez après aller le contaminer.